Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soir. Bonjour mon cher Polydome. Oh là là,
bonjour Guillaume et bonjour camarade.
Alors, bon, retour de TJ Dillashaw face à Corey Sandhagen ce week-end. Un combat particulièrement intéressant, en tout cas à mon sens, hein, et Polydome, je suis sûr, partage mon avis, entre deux gars qui s'affrontent selon toute vraisemblance pour le prochain title shot de la catégorie Bantamweight.
Moi je voyais pas ça si rapidement, je pensais qu'il allait quand même avoir le rematch.
Oui, après le rematch, bien sûr.
Oui, d'accord, ok, ouais, parce que je me suis dit que ça aurait été quand même abusé de couper la priorité comme ça à Peter Yan, mais oui, pourquoi pas, ça me dit bien. C'est vrai que TJ Dillashaw étant un énorme acteur de cette catégorie, il est plus ou moins, c'est un peu comme Dominic Cruz, quoi, une victoire à chaque fois de revenir dans le mix. Et Corey Sandhagen, il est sur. Il n'est pas vraiment sur une lancée énorme parce qu'il y a eu un petit couac, mais c'est un couac qu'on lui pardonne parce que c'est contre l'actuel champion.
Complètement.
Enfin, actuel champion.
Champion.
Voilà, quoi. Mais bon, dans les faits, c'est clairement ça. C'est-à-dire, il a perdu par soumission contre Aljamain Sterling assez rapidement, un match assez anticlimatique. Il avait été pris de vitesse avant de pouvoir installer son groove et c'est là qu'on voit qu'Aljamain Sterling, en dépit du fait qu'on peut questionner son véritable statut de champion, ça j'entends tout à fait cette critique là, mais c'est quand même un excellent combattant et un des meilleurs de la catégorie. Et donc voilà, donc hormis ce petit trébuchage en règle face à Aljamain Sterling, il a été impeccable, proprement impeccable. Donc ça c'est très cool, c'est très très cool comme combat.
Et ben formidable, en tout cas, on va en parler aujourd'hui, bien évidemment. N'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, mon cher Polydome. On lance le générique. Soit. Bon, TJ Dillashaw, Corey Sandhagen. Ça s'annonce particulièrement tendu comme combat, absent depuis plus de 2 ans maintenant, conséquence de son contrôle positif à l'EPO. TJ Dillashaw fait son retour directement dans le mix face à un gars qui voulait affronter TJ Dillashaw et qui impressionne depuis, on va dire, son non-match, mais c'est vrai que contre Aljamain Sterling, il a pas eu le temps de rentrer en fait dans le combat finalement. Et là, depuis, il a poursuivi son run qui est absolument énormissime, Corey Sandhagen, qui a terminé quand même coup sur coup Marlon Moraes et Frankie Edgar. Et là, maintenant, c'est vraiment pour poinçonner le statut de contender prétendant au titre qu'il affronte TJ Dillashaw.
Ouais, non, c'est clair. Alors, c'est vrai que les inconnus sont plus du côté de TJ Dillashaw sur ce combat, parce qu'en termes d'expérience, certes, Dillashaw a quand même plus d'expérience que Sandhagen, ça ne fait aucun doute. Néanmoins, c'est toujours difficile de revenir après une telle durée. On parle quand même de 2 ans et demi. Sans combattre, et surtout sa dernière sortie finalement, c'est sa tentative avortée de rencontrer le champion des flyweight, enfin de battre le champion des flyweight plutôt, Henry Cejudo. Ça s'est fait je pense qu'en termes de cumul d'emmerdes, on est quand même assez haut sur l'échelle de la loi de Murphy, parce qu'en gros il a fait un cutting qui était extrêmement dur, probablement a pris des produits pour ça. Bon, après, il se droguait peut-être avant, après on n'en sait rien. Enfin, je laisse ça aux gens qui sont spécialistes de cette question, tu vois. Mais en gros, lui, c'était sa théorie, et je pense qu'il y a un certain sens, parce que le cutting était très très dur. Alors ça ne veut pas dire qu'il l'a pas fait avant. Il l'a peut-être fait avant et en plus pour le cutting. Et donc il a fait un cutting très éprouvant et il s'est fait torcher par Henry Cejudo, et donc du coup ça va être compliqué pour lui de revenir directement. Là, il revient, il n'y a même pas un tour de chauffe, quoi, parce que par exemple, tout de suite on le met dans le mix contre un mec qui a des dents longues et qui en veut énormément. Donc c'est très compliqué, mais en même temps, s'il y en a un qui peut le faire dans la catégorie flyweight, qu'est-ce que je raconte, bantamweight, bah pourquoi pas TJ Dillashaw. Enfin, je veux dire, c'est un des tout meilleurs de cette catégorie. Controverse mise à part, et donc du coup, cela ne me surprendrait pas qu'il réitère l'exploit. Pour moi, c'est pas du domaine de l'impossible. C'est juste que c'est là, c'est compliqué. Là, à mon avis, il doit ramer parce qu'en plus de ça, je pense qu'aussi une des grandes forces, et ça, c'est une discussion qui on rentre un peu plus dans le fond en fait de l'opposition stylistique entre TJ Dillashaw et Cory Sandhagen. Je pense qu'une des grandes forces de TJ Dillashaw, c'est qu'il apportait quelque chose dans la catégorie que, finalement, hormis Dominic Cruz à l'époque, il n'y avait personne qui combattait comme lui. D'ailleurs, ils ne combattent pas de la même manière, mais disons que c'est des combattants qui ont mis une emphase sur le footwork et sur les déplacements. Et c'est vrai que c'est un peu comme l'équivalent de la poudre à canon dans le warfare. Ça, c'est un truc que si tu l'as et que l'autre en face il l'a pas, ben tu le tues, quoi. Mm-hmm. Tu le tues. Et ça s'est vu en fait. Je pense que la performance de révélation pour TJ Dillashaw, qui n'était pas attendu à ce niveau-là dans la catégorie, c'est contre Renan Barão, qui était lui pour le coup à l'époque. Et c'est très et ça rejoint ce que j'ai dit à propos d'Islam Makhachev
et de Khabib
dans notre dernier podcast, où j'ai été d'ailleurs critiqué à ce propos, mais je maintiens ce que j'en pense, c'est que aucun style n'est définitif. C'est-à-dire que Renan Barão, pendant une période, une assez longue période, il était à 33-1. C'était assez étonnant parce qu'il était dans la même équipe que José Aldo et combattait sensiblement de la même manière. On avait affaire à un gars qui avait une takedown de défense redoutable, assez flat-footed, c'est-à-dire assez statique sur ses appuis, un Muay Thai un peu explosif, un peu c'est ce que j'appelle le Brazilian Muay Thai, c'est vraiment, il y a le Dutch Style et il y a le style brésilien, tu vois, qu'on retrouve un peu dans toute cette mouvance de combattants de MMA qui se sont inspirés ou qui sont rentrés dans la lignée, qui ont suivi en fait la lignée shoot a box et cette façon de combattre, et dont José Aldo est l'un des meilleurs représentants finalement, mais Renan Barão c'était ça, et quand Renan Barão régnait, mais personne ne le voyait perdre. Et il est tombé sur un gars qui a amené en fait des déplacements, des feintes, une anglaise un peu plus qui cherchait un peu plus les angles, qui a exploité le côté trop statique de Renan Barão, qui avait déjà, c'était des failles qui avaient été exposées notamment dans le combat de Renan Barão contre Eddie Winland. Alors il gagne sur KO, mais c'était déjà, tu vois, il y avait déjà des petites failles.
Accros.
Mais ouais, des failles dans l'armure, quoi. Et lui, il l'a exposé de manière tonitruante. Donc, il a amené ça, en fait, dans cette catégorie. Et il a fait prendre conscience à plein de combattants de l'importance, en fait, des déplacements. Parce qu'en réalité, Dominic Cruz, comme si tu veux, il avait pas un striking où il mettait pas KO les gens, finalement, Dominic Cruz. Tu vois, il les battait à la décision. Bon, il a mis des KO, mais c'était pas le truc qui le caractérisait véritablement à ce niveau-là, tu vois. Et en plus, comme il combattait de manière assez sporadique à chaque fois à cause de ses blessures, tu n'avais pas tellement le temps de rentrer, si tu veux, dans l'opinion des gens. Tandis que là, tu as un mec qui arrive, qui te torche un gars qui est complètement invaincu, mais qui le défonce deux fois en plus de ça, de la même manière les deux fois. Et là, bah, c'est un signal pour tout le monde, c'est qu'il faut se mettre à jour, tu vois. Là, il faut faire ses devoirs parce que c'est lui le champion. Et donc, là, il faut s'adapter. Si ton but, c'est d'être le champion, il faut battre le champion. Donc, forcément, tu t'adaptes. Et je pense que la catégorie s'est adaptée maintenant. Tous ne combattent pas de cette manière-là, mais tous ont compris à peu près ce que c'était, tu vois. Et t'as des gens comme Cory Sandhagen qui lui aussi maintenant place une énorme emphase sur le déplacement et sur le footwork. Donc je pense que la catégorie a un peu évolué en l'absence de TJ Dillashaw, et je suis curieux de savoir ce que ça va donner, parce qu'on a vu que TJ Dillashaw face à un adversaire qui était aussi évasif que lui, en la personne de Dominic Cruz, qui était pourtant un Dominic Cruz qui revenait, c'était compliqué aussi pour lui.
C'est clair.
Il avait pas autant de succès que contre les modèles un peu plus statiques, tels que, je sais pas, par exemple Lineker ou
Même Cody Garbrandt, dernièrement.
Cody Garbrandt qui est, alors il est peut-être, je dirais pas qu'il est statique, mais il est en tout cas très linéaire, tu vois, il fait pas trop de mouvements latéraux et tout, donc c'est peut-être déjà une façon de se déplacer, mais un peu moins sophistiquée que celle de Dillashaw, de Cruz, de Cory Sandhagen, mais aussi tu prends un combattant qui le fait, qui est pas tellement mis en avant pour ça, mais qui le fait très bien, c'est Peter Yan, il a d'excellents déplacements. Hein. C'est un gars qui est, je crois, boxeur pro, boxeur anglais de formation à la base. Et ça se sent. C'est peut-être moins visible que. Parce que quand on parle d'anglaise, on va parler par exemple des frères Diaz, on va parler du Junior Dos Santos. On va pas tout de suite penser à Peter Yan, mais je peux vous assurer que Peter Yan, il a un niveau d'anglaise qui est juste redoutable. Donc je suis curieux de savoir comment Dillashaw va faire Parce que c'est un peu, tu vois, lui qui a permis au sport d'évoluer. Et on voit, tu vois, quand t'es absent longtemps de ce sport, le sport évolue rapidement, tu vois. Et donc, ouais, ça m'intrigue très fortement.
Donc, main event dans la nuit de samedi à dimanche, Corey Sandhagen contre TJ Dillashaw. Mon cher Poydomso, quelles vont être les clés du combat ?
Bah, moi, je pense que TJ Dillashaw pourrait s'inspirer de, d'une des performances qu'il a eues qui a un peu une performance en demi-teinte, parce que je pense qu'il est tombé dans le piège. C'est son combat contre Dominic Cruz, en fait. Mm-hmm. C'est le combat, un des rares combats où il est tombé sur quelqu'un qui avait une science du déplacement et de la position dans l'octogone au moins équivalente, si ce n'est supérieure à la sienne, en fait.
C'est là qu'il a perdu sa ceinture, d'ailleurs, bantamweight.
Tout à fait, parce qu'en fait, en réalité, si les gens se souviennent à peu près du déroulé du combat, sur les trois premiers rounds, il est tombé dans le piège de Dominic Cruz. Il a vraiment cherché à le suivre et à essayer de le toucher. Et il s'est fait distancer. Alors, il prenait pas trop de dommages, mais il se faisait outpointer et ça marchait pas. Et ce n'est qu'à la fin où il a commencé à entrer en combinaison et à terminer sur des low kicks et à essayer de sanctionner les jambes de Dominic Cruz, qui de toute façon, comme il se sert de ses jambes pour se déplacer, ne peut pas se servir de ses jambes pour se protéger. Tu vois, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est très compliqué de faire les deux en même temps. Et donc, du coup, c'est comme ça que sur la fin, moi, à mon avis, TJ Dillashaw revenait véritablement très fort dans ce combat. D'ailleurs, c'était de mémoire une split décision, il me semble. Donc, c'était serré. Je pense que contre un adversaire comme Corey Sandhagen, qui fait beaucoup de déplacements, qui fait beaucoup de shifts aussi, de changements de garde et tout, il aurait intérêt à s'inspirer de ce qu'il a fait dans les deux derniers rounds contre Dominic Cruz. Après, la problématique, c'est que ce n'est pas exactement les mêmes combattants, hein, Dominic Cruz, Sandhagen. Sandhagen est très grand pour la catégorie. Ça, c'est un truc, ça va être compliqué pour Dillashaw d'arriver à couvrir. C'est pour ça qu'à mon avis, un jeu en kick développé, à mon avis, s'impose, parce que rentrer en anglaise face à un mec comme Sandhagen, c'est très, très dangereux. Parce qu'en plus de ça, tu vois, on l'a vu contre Frankie Edgar a essayé de rentrer comme ça. Une erreur a suffi, quoi. C'est tout. Tu vois. Il était un peu trop prévisible sur son mouvement d'esquive pour rentrer dans la distance. Il s'est fait sécher. Il a un côté extrêmement venimeux, Sandhagen. Hein. Dès qu'il perçoit un petit peu d'habitude ou de répétition chez son adversaire, il va tout de suite le frapper. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tout le point que j'ai développé sur Dillashaw, qui a vaincu Renan Barrao parce qu'il avait un style qui était axé sur le mouvement et qui répondait finalement assez bien au style statique de Barrao, bah finalement Sandhagen, il a fait la même chose avec Marlon Moraes. Hein. Marlon Moraes, c'est une version un peu plus, on va dire, sophistiquée, un peu plus explosive, un peu plus athlétique de Renan Barrao, mais il a le même défaut. C'est un gars qui est quand même très statique, fonctionne sur des explosivités en courte fréquence, c'est-à-dire sur 1, 2, 3 coups. Alors il a beaucoup de puissance sur ses coups. Mais le problème, c'est que si ça rate, il se retrouve hors de position et il peut se faire sanctionner. Et on l'a vu, il s'est fait, mais il était complètement hors du combat contre Sandhagen, qui profitait de sa taille et de ses déplacements. Donc, taille plus déplacement plus jeunesse, ça fait très, très dur. Donc, moi, je pense que Dillashaw, gros jeu en kick, ce serait pas mal. Et une fois que finalement, il arrive à réacquérir cette distance, parce que même si Sandhagen est plus grand, et avec les kicks, ça devrait s'équilibrer. En plus, Sandhagen, de mémoire, il fait des kicks, hein, il a allumé Moraes sur un coup de pierre tourné, hein, mais
il va pas bâtir là-dessus pour ensuite récolter les dividendes.
C'est ça. Il a c'est présent. Je vais pas dire qu'il ne kick pas parce que c'est faux. Il a les techniques de kick. Il les place comme des coups forts, en fait. C'est vraiment un peu les points d'exclamation de ses combinaisons. Mais il a une attitude qui est un peu moins méthodique là-dessus que ne peut l'avoir, par exemple, TJ Dillashaw, qui, pour le coup, ses combinaisons pieds-points à TJ Dillashaw, elles sont très intéressantes. Il termine souvent sur des kicks, high kick qui est très, très, très violent. On sait que dans le premier combat contre Cody Garbrandt, c'est le premier ou le deuxième, je sais plus, mais ça a joué en
tout cas. Le premier.
Ouais, je crois que c'est le premier, ouais, effectivement. Et il est capable de le faire soit en technique seule, soit en fin de combinaison. Dans le premier, c'est qu'il se faisait anticiper sur ses combinaisons, donc il est repassé à des kicks seuls, et juste les kicks seuls sans amorce, il était suffisamment rapide pour les placer. Donc je pense que ça équilibrera en fait la distance, ça remettra en fait ça permettra un échange qui sera pas forcément perdant pour TJ Dillashaw. Et peut-être à ce moment-là, je pense que peut-être jouer sur la lutte. Sandhagen a montré que au sol, bon, c'était Aljamain Sterling, hein, c'est un des meilleurs grappleurs de la catégorie, mais il est peut-être pas aussi redoutable qu'il ne l'est en revanche quand il est à distance de striking, où là franchement c'est déjà un peu plus sa tasse de thé. Donc oui, je pense que limiter les déplacements de Sandhagen, essayer de se réapproprier la distance avec les kicks. Et une fois que Sandhagen viendra à lui, ou peut-être sera hors d'équilibre, ou se sera trop engagé sur un coup, peut-être dans un second temps, axé en tentative d'amener au sol. Je pense que ça peut être une bonne stratégie.
Et côté Sandhagen, mon cher Polydomso, parce que c'est vrai, et tu as soulevé ce point avec justesse, c'est qu'hormis ce gros point noir contre Aljamain Sterling, où c'est cette défaite hyper rapide, bah c'est presque parfait.
Bah, en réalité, Sandhagen, je pense que pour le coup, des deux, c'est peut-être celui qui a le moins d'ajustements à faire, parce que s'il fait ce qu'il fait d'habitude, et que TJ Dillashaw n'y prend pas garde, je pense qu'il peut outpointer Dillashaw, tu vois, assez... de manière assez confortable. Il a une grosse fréquence de coups, il a une énorme variété de coups, il choisit bien ses angles. Je pense qu'en termes de déplacements latéraux, je le trouve même supérieur à Dillashaw. Bon, c'est mon opinion, hein, évidemment, mon humble opinion. Donc, si, en plus, je te dis, il a la taille. Alors, l'allonge, je crois qu'ils sont similaires en termes d'allonge, il me semble, hein, à vérifier, mais de toute façon, comme il est plus grand, ça rentre en ligne de compte, forcément. Donc, s'il fait ça, ce sera bon. Je pense que peut-être mettre un peu plus de... Peut-être avoir Dillashaw à l'ego. Je pense que Dillashaw, peut-être un de ses problèmes, c'est, bon, je n'irais pas dire qu'il a un mental qui est faible, mais un peu comme, étonnamment, un peu comme Cody Garbrandt, qui a été, je ne vais pas dire sa némésis, mais qui a été un de ses rivaux dans la catégorie. Quand il est piqué, quand il est poussé durement ou provoqué, il va vraiment avoir envie de marquer le coup. Alors, il ne va pas se jeter sur ses coups comme Cody Garbrandt, mais il va essayer vraiment d'avancer sur toi. Ça s'est vu notamment contre Cerrudo, mais aussi contre Dominic Cruz, où il était agacé. En fait, il s'est frustré lui-même. Et je pense que pendant les trois premiers rounds, il a adopté une stratégie qui n'était pas la bonne parce qu'il était frustré et agacé par Dominic Cruz. Donc, je pense que peut-être ça, c'est un peu à jouer. Peut-être essayer de bien rentrer dans le combat très rapidement, de le piquer dès les premiers rounds, de l'empêcher de s'installer. Et en réalité, une fois que Dillashaw sera agacé, irrité, jouer au matador. Je pense que c'est vraiment un truc. Et si Dillashaw vraiment est frustré et commence à essayer de faire des rentrées en takedown un peu prévisible, là, de toute façon, le sanctionner avec les genoux si besoin est.
Ben voilà, rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche pour Cody Garbrandt. Wow, Cory Sandhagen contre TJ Dillashaw. Un petit pronostic, mon cher Polydomso.
C'est chaud, hein. C'est vraiment
dur. C'est vraiment chaud. Ouais.
C'est vraiment dur parce que moi, tu vois, comme ça, parce qu'en termes d'activité, de jeunesse, c'est toujours tendance à la donner à Sandhagen. Parce qu'il est sur la lancée, parce qu'il a, enfin, tu vois, il y a moins d'inconnus, si tu veux. Mais d'un autre côté, ils ont pas du tout la même expérience. Attends, c'est bien ce qu'il a fait Sandhagen. Hein. Il a quand même combattu Lineker, il a combattu Frankie Edgar, Marlon Moraes. Donc, il y a quand même pas mal. Il a battu des anciens champions et tout. Donc, il est déjà à un niveau très, très élevé. Mais quand même, TJ Dillashaw, ouais, je sais pas. Je pense qu'il a plus d'expérience et il a combattu. Alors, je sais pas, tu vois, en termes de niveau, si c'est mieux, mais il a été plus souvent dans des situations stressantes, en fait. Et il a cherché, en plus, tu vois, il est descendu pour aller chercher Cerrudo. Ça s'est pas bien terminé pour lui, mais tu vois, il a fait cet effort-là. Donc, je pense qu'il est, tu vois, il a de la réserve et il a du savoir-faire, tu vois. Et par exemple, et même dans ses combats contre Cody Garbrandt, dans les deux combats, il se fait toucher, il revient, tu vois. C'est il a cette expérience, ce savoir-faire de vétéran, tu vois. Et donc je me dis que ça peut vraiment profiter à TJ Dillashaw. Maintenant, tu vois, c'est ça qui me fait peur avec TJ Dillashaw, c'est vraiment le fait qu'il n'a pas rencontré souvent des gens qui avaient son style, quoi. Ouais. Et on voit parfois, tu sais, c'est juste une question de match-up, tu vois, de rencontre de style, d'opposition, des mecs qui sont excellents contre 90% des gens et qui vont être emmerdés par tu vois, 10% des gens qu'ils affrontent. Et donc voilà. Mais après, on pourra me rétorquer, et à juste titre, que c'est la même chose pour Cory Sandhagen. La seule différence, moi, que je vais te dire, c'est que Cory Sandhagen, il a pu étudier depuis plus longtemps, en fait, ce que faisait TJ Dillashaw. Donc, bon, je vais aller du côté du nouveau, moi. Je pense quand même que les situations le favorisent plus. Mais honnêtement, et c'est une confession que je vous fais, pour moi, c'est du 55-45, quoi. C'est-à-dire, honnêtement, j'ai un peu plus de préférence pour Sandhagen. Pas de préférence personnelle, mais de préférence sur ses chances de victoire. C'est-à-dire, je pense qu'il a plus de chances de victoire que TJ Dillashaw. Mais si l'inverse arrive, je ne serais pas surpris non plus. Tu vois. Pour moi, c'est disputé comme ça.
Eh bien, réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Big shout out to my sweet pea, my sweet potato. Moins 15% supplémentaire en plus des 80, jusqu'à moins 80% en ce moment, c'est les seuls chez MyProtein. Et puis Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Bien évidemment, rendez-vous sur Venom, mon cher Polydomso, on se retrouve très très vite. Générique, allez, salut!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.